Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vivante Église, dans cette émission spéciale. C'est un chemin vers les ordinations sacerdotales qui auront lieu ce dimanche 29 juin à la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir deux invités particuliers. Ce sont les deux futurs prêtres du diocèse de Toulouse, l'abbé Jean-Baptiste Oneda et l'abbé Irénée Romanoff. Bonjour à tous les deux, chers abbés.
Bonjour. Bonjour Nathalie.
Alors, ravi de vous accueillir. Vous serez donc ordonné ce dimanche par Monseigneur Guy de Quérimel, qui d'ailleurs a rappelé le lundi saint 2025 à vous tous, diacres et prêtres du diocèse de Toulouse, que la sainteté est le but de toute vie chrétienne et en particulier de la vie sacerdotale. Alors, j'imagine que les auditeurs de la radio chrétienne aujourd'hui vont être attentifs à chacune de vos paroles. Chers abbés, Jean-Baptiste et Irénée, on va découvrir, si vous le voulez bien, dans ces premières minutes, un peu ce qui s'est passé dans votre histoire, dans vos parcours personnels. Et tout d'abord, ça sera ma première question qui va introduire ce Vivante Église spécial. Comment avez-vous découvert et reçu cet appel de Dieu, abbé Irénée Romanoff? On vous écoute et merci.
Alors, je vais vous répondre. Je vais commencer par me présenter un peu, puisque l'appel de Dieu, il me rejoint dans mon histoire, dans ce que j'ai reçu dès mon enfance. Et alors, je commencerai par dire ceci. Voilà, je m'appelle Irénée Romanoff, j'ai 32 ans et j'ai grandi dans une famille chrétienne où mes parents nous ont transmis la foi de l'Église. Et j'ai grandi au Puy-en-Velay. Ce lieu m'a beaucoup marqué et a beaucoup compté, je crois, dans ma vocation. J'ai grandi dans une communauté chrétienne porteuse, dans le sens où, déjà très jeune, eh bien, j'étais entouré de sollicitudes et puis d'attention à travers le service comme servant d'hôtel, à travers la participation à une chorale, la maîtrise de la cathédrale du Puy, le scoutisme, mais aussi les écoles de prière. J'ai été dans un environnement où mes amis, ma famille me portaient dans ma foi et m'accompagnaient dans ma croissance, voilà. J'ai eu, petit, l'intuition que je serais prêtre, mais c'est quelque chose, voilà, qui restait ponctuel. Et toute mon enfance, eh bien, je l'ai vécu en profitant, voilà, de cette vie de famille, de ce que je vivais dans les loisirs, mais aussi en me questionnant sur mon avenir. Et j'ai été amené, voilà, à construire un projet. Déjà, je me disais, je voudrais bien étudier les sciences, et puis de fil en aiguille, je me suis dit, je voudrais préparer des concours, entrer en classe préparatoire pour entrer dans une école d'ingénieur en agronomie, pourquoi pas. Et c'est étudiant, la première fois que j'ai entendu distinctement cet appel à devenir prêtre. Je me souviens très bien que c'était dans un concert de musique où j'ai eu l'image de moi comme prêtre, une image vraiment mentale et qui m'a profondément touché, mais que j'ai tout de suite pris avec, je dirais, une certaine suspicion, en me disant, et si c'était une tentation, parce que préparer des concours, c'est pas facile, et si c'était une tentation pour ne pas aller jusqu'au bout et finalement trouver une sortie de secours, voilà. Et du coup, j'ai laissé ça de côté pendant un certain temps. J'ai passé voilà mes ces concours après un premier échec qui a porté du fruit pour moi de voir que le Seigneur était avec moi même quand je ne réussissais pas mes projets voilà mais finalement après une deuxième tentative je suis arrivé à Toulouse dans une école d'agronomie l'ENSAT et pendant cette année j'ai eu plus de temps pour réaliser que voilà sans le Seigneur dans ma vie bah, j'y arriverais pas et que je voulais connaître sa volonté, je voulais me mettre au service des autres et ça a été l'occasion pour moi cette année de beaucoup m'engager mais aussi une période de réflexion avec un côté assez inconfortable, je ne savais pas ce que Dieu voulait pour moi. Est-ce que c'était devenir prêtre? Et puis, je suis un jour allé dans un week-end d'étudiants en agronomie, week-end agri-agro, week-end chrétien grandes écoles, à Angers. Et à la fin de ce week-end, je rencontrais par hasard l'aumônier de cet événement. Et en discutant avec lui, eh bien, quelqu'un nous a rejoint et lui a demandé, mais mon père, quand est-ce que vous avez entendu l'appel à devenir prêtre? Et à ce moment-là, il a dit, ben voilà, je me souviens que c'était tel jour, à telle heure, j'étais en train de courir et j'ai réalisé que le Seigneur m'appelait à devenir prêtre. Et alors c'est banal, mais quand il a dit ça, eh bien pour moi, j'ai clairement perçu que c'était Dieu qui me disait, ben, ce qui lui est arrivé à ce moment-là, ça t'arrive à toi maintenant, et je te demande d'entrer au séminaire. Alors, grand retournement, grande claque, et je réalisais que je commençais une nouvelle vie. Alors, dans la confiance, voilà. Et voilà, j'étais accompagné spirituellement et j'ai fait vérifier cet appel. Et très vite, on m'a dit, mais que ça semblait authentique. Alors, je ne suis pas rentré tout de suite au séminaire à Toulouse, puisque j'étais en cours d'études et que c'était bien de finir d'avoir ce diplôme d'abord. Alors, mais j'ai quand même commencé une formation de séminariste en finissant cette école d'agro. Ça s'appelle le séminaire GFU. C'est un séminaire un peu en alternance qu'on
Ah,
vit
d'accord.
les week-ends, pendant l'été. Et pendant 3 ans, j'ai fait ça. J'ai fini mon diplôme, puis je suis allé travailler pendant un an à Limoges, et je continuais à être séminariste un peu en alternance. Et puis au bout de ces 3 ans, bah, je suis rentré, j'ai demandé à Monseigneur Legal de rentrer au séminaire de Toulouse, et grand changement aussi, qui a vérifié un peu ma vocation, qui m'a purifié de beaucoup de choses, de beaucoup d'images que j'avais sur le prêtre, et aussi qui m'a fait beaucoup grandir humainement, spirituellement, mais aussi humainement en revisitant les endroits blessés de mon histoire et en m'acceptant tel que je suis pour pouvoir m'offrir tel que je suis au Seigneur. Et ce qui me conduit aujourd'hui voilà, à avoir demandé voilà, à Monseigneur de Kerimel de m'ordonner comme prêtre, d'abord diacre il y a quelques mois, puis prêtre. Et avec la réponse à sa demande, bah, voilà, je me prépare à répondre à l'appel de Seigneur. Ce que je crois être vraiment maintenant, bah, la volonté de Dieu pour moi, voilà, me mettre au service de son Église dans le diocèse de Toulouse. Voilà.
Merci infiniment, Abbé Irénée Romanoff. Alors, on entend bien cet appel. On entend bien aussi les différentes étapes de votre cheminement. Un cheminement étape par étape. Beaucoup de réflexions. Vous avez pris aussi le temps. Vous avez pris aussi les moyens pour vérifier si cet appel méritait ben, de poursuivre, d'entrer dans ce début de séminaire. Voilà, jusqu'à ce grand jour aujourd'hui, puisque vous êtes à 3 jours de cet événement qui fait partie aussi de votre histoire de vie, où vous allez donner donc ce oui définitif pour le sacerdoce et puis au service du diocèse de Toulouse. Alors à vos côtés, c'est un de vos confrères, amis, cher abbé Jean-Baptiste Onéda, vous avez aussi votre appel, votre histoire, avec vos questionnements, peut-être vos doutes, vos combats. Quel a été un petit peu cet appel de Dieu qui a reposé sur vous et qui vous conduit, tout comme l'abbé Irénée Romanoff? Dans 3 jours, vous serez à la cathédrale Saint-Étienne et vous serez ordonné pour le diocèse de Toulouse. Il s'est passé comment cet appel de Dieu? Et merci.
Merci Nathalie. Alors effectivement, pour ma part, j'ai 31 ans et ma vie et le questionnement est arrivé. Je vais peut-être faire d'abord un retour sur ma vie. J'ai grandi à la campagne. Je suis un pur produit du terroir toulousain. Donc j'ai grandi dans le sud-est de Toulouse, à Haute-Rive, de famille issue de l'immigration italienne et portugaise. Et donc je suis arrivé, mes parents, nos parents avec ma sœur nous ont mis au catéchisme quand on était enfants. Ma sœur avait décidé, elle, de pas forcément poursuivre après le catéchisme. Moi, j'ai continué pour de très bonnes raisons au début, pour les cadeaux, comme ça peut arriver. Et puis, en fait, on n'allait pas très peu à la messe pour ma part. En famille, on y allait pour les grandes, ce qu'on appelle les grandes fêtes, hein, donc j'entends Pâques, Noël, les Rameaux, Toussaint. Et c'était un peu ça notre expérience, disons, ecclésiale. Et de fait, alors je disais que ma famille est issue de l'immigration, et de fait, ça a posé un questionnement en moi quand je devais avoir... adolescent, 13, 14, 15 ans par là, où je me suis posé vraiment la question de savoir qui est-ce que j'étais. Parce que c'est, on réalise que, quand j'ai commencé à réaliser que finalement, en fait, l'histoire, je ne suis pas enseigné de la même manière dans l'histoire de France et en France, comme pouvaient l'être mes camarades. Et. Parce que bon, nos ancêtres les Gaulois, c'est pas forcément ça me caractérisait pas forcément. Et c'était un peu un moment de flou. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu sais pas forcément qui tu es. Ce que tu peux être sûr d'une chose, c'est que tu es catholique parce que tu as été baptisé, confirmé, communié. Et donc ça a été un espèce de déclic pour moi. Et j'ai commencé à avoir précisément une vie dans l'église, une vie ecclésiale. Alors j'étais maintenu avec les scouts d'Europe à Haute-Rive. Et puis aux entours dans cet âge-là à peu près, moi qui avais toujours voulu servir la messe, en allant quasiment jamais à la messe, mais je voulais servir la messe, eh bien j'ai franchi le pas un peu sur une histoire un peu de Paris, un peu de mise à l'épreuve avec les copains. Donc je vais servir la messe, et là je commence à m'enraciner dans ce service de la messe, et à m'enraciner dans le Christ à partir de ce moment-là, où j'avais dit au curé de l'époque, je lui ai dit écoutez monsieur l'abbé, je viens là, mais je viendrai peut-être pas toutes les... J'aime bien revenir servir, mais je serai peut-être pas là tout le temps. Il me dit, tu viens quand tu veux. Et je pense que j'avais besoin de cette liberté-là, qu'on me dise... Ben, viens quand tu veux, si tu veux. Si tu veux pas servir, tu sers pas. Si tu veux servir, tu sers. Sois très libre. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à aller à la messe tous les dimanches. Et donc, du coup, la relation a commencé à se creuser avec le Seigneur. Vraiment. Et quand je suis arrivé dans mes années lycée, et puis mes années fac, surtout, je commençais à avoir habitus chrétien, cette vie chrétienne de prière, une vie de prière, une vie ecclésiale, une vie sacramentelle. Et donc, je commençais à bien cheminer avec le Seigneur. Et quand je suis arrivé à la fac, j'ai dit au Seigneur, écoute Seigneur, si tu veux que je sois prêtre, tu m'appelles. En me disant, alors j'en avais aucune envie, mais en me disant, tous les jeunes hommes catholiques se posent cette question. Ce qui m'a apparu pas si évident que ça... par la suite, mais je me suis dit, ben voilà, si il faut être disponible pour le Seigneur, s'il veut nous appeler. Et donc, ça a été un long chemin. J'étais accompagné spirituellement avec le curé d'Hauterive à l'époque, qui m'a beaucoup aidé, qui est devenu un ami d'ailleurs. Et en fait, j'ai fait cet aller-retour permanent entre le vouloir, enfin, vouloir devenir père de famille et me marier, et vouloir devenir prêtre. Et c'était quand même. En fait, à chaque fois, c'était je suis sûr que je suis appelé au mariage. Et après, c'était je suis sûr que je suis appelé au sacerdoce. Bon, mon curé, avec beaucoup de sagesse, quand je lui dis ça, je devais être en terminale, il me dit, bon, écoute, là, tu vas rentrer à la faculté, fais tes études tranquillement, ne rentre pas avant ta licence. J'ai fait une licence en droit et un master et des masters en droit. Donc, il me dit, rentre pas avant d'avoir fini tes études. Et je me suis dit, bon, ben, d'accord, très bien. Ça me donnait une échéance, disons. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, de me dire, je vis ce que j'ai à vivre maintenant. Et je me projette pas ailleurs. Et donc, de fait, cette espèce d'aller-retour incessant entre le mariage et la vie sacerdotale. Et en me formant aussi, parce que j'allais me former ailleurs, j'étais dans des groupes de prières et de formation dans le Poland de chez moi, à Toulouse. Et donc là je découvre aussi la sainteté dans la vie ordinaire. Et je me dis que vraiment, enfin, j'apprends que toutes les. Ce qui paraît évident maintenant, mais que tous les baptisés sont appelés à la sainteté. Et que cette sainteté. On y est tous appelés, mais c'est par des voies particulières. Certains par le mariage, certains en devenant prêtre, certains en devenant religieux. Mais en fait, c'est une vocation qui est quasiment secondaire. La première vocation, c'est la sainteté. Et donc j'apprends ça, je commence à vraiment avoir une vie de prière. Et au cours de ma quatrième année, donc j'étais en master, je pars en retraite et devant le Saint-Sacrement, j'entends vraiment le Seigneur qui m'appelle. Comme un appel vraiment particulier, comme un appel qui résonne en moi, je veux que tu sois prêtre. Et à ce moment-là, bon, en fait, c'était la réponse que j'attendais depuis tout ce temps. Et vraiment, moi, ça m'a libéré et ça a fait. J'étais joyeux, en fait. J'étais heureux et en paix. Ce qui m'a beaucoup. Assuré, même si je me disais, bon, tu dois te faire des films. Et de fait, ça. Avec mon père spirituel, on a pu en discuter quelques mois après. J'ai pas voulu en parler tout de suite. Et de fait, c'est arrivé. Et je lui ai dit, ben voilà, il s'est passé ça. Il me dit, ben écoute, oui, ça paraît être authentique. Donc, je lui ai dit, oui, est-ce que c'est pas trop tôt? Mais en fait, le séminaire, on a quand même 7 ans. Pour aussi remettre en question notre vocation, donc, et pour la questionner, pour la purifier, etc. Donc il me dit, en fait, tu vas pas être ordonné prêtre tout de suite. Donc détends-toi, calme-toi, et y a ce long chemin du séminaire.
Je vous propose de vous retrouver dans ce Vivante Église dans quelques minutes, le temps d'une plage musicale. Eh bien, je reprendrai un peu cette trame qui avait été donnée par Monseigneur Guy de Kerimel, qui vous ordonnera prêtre ce dimanche 29 juin à la cathédrale Saint-Étienne à partir de 15h30. Chers auditeurs, vous pouvez vous rendre et accompagner nos deux abbés pour ce grand moment dans leur histoire de vie. À tout à l'heure.
Merci.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce magazine de Vivante Église, une émission spéciale, j'ai la joie d'accueillir dans nos studios, trois jours avant l'événement des ordinations qui auront lieu ce dimanche 29 juin à partir de 15h30 à la cathédrale Saint-Étienne. Venez nombreux, chers auditeurs, pour accompagner ces deux ordinations et vous les avez découvertes en début d'émission dans leur appel, dans leur parcours. Je reçois l'abbé Jean-Baptiste Onéda et l'abbé Irénée Romanoff. Alors, à l'occasion du lundi saint, chers abbés, votre évêque, Mgr Guy de Quirimel, avait offert aux prêtres de son diocèse un très bel enseignement, très profond, sur la spiritualité du prêtre diocésain. Il a d'ailleurs rappelé que tout prêtre est d'abord un homme qui est uni au Christ, qui est configuré à lui pour servir l'Église. Le prêtre est aussi un homme de miséricorde et de proximité. Le prêtre est l'homme serviteur de la parole. Et je vous invite, chers auditeurs, à relire peut-être ce bel enseignement de Mgr de Quirimel adressé aux prêtres sur la spiritualité du prêtre diocésain. Et ça m'intéresse d'en parler aujourd'hui avec nos deux futurs prêtres ordonnés. On compte les jours dans trois jours, appelés à la sainteté, le cœur du prêtre. Que signifie pour vous tendre à la sainteté comme prêtre diocésain, chers abbés? Et je commence avec vous, Jean-Baptiste.
Déjà, je pense qu'on est. Il faut rappeler qu'on est tous appelés à la sainteté de manière universelle, c'est-à-dire que tout baptisé est appelé à la sainteté. Il n'y a pas de sainteté de second ordre. Il n'y a pas de sainteté, une sainteté qui est mieux pour les prêtres ou les religieux et une sainteté qui est moins bien pour les laïcs. La sainteté, c'est la même pour tous. Et de fait, là où ça peut être différent pour chacun, c'est dans notre vie concrète. C'est la sainteté, elle se vit et elle est possible dans une... Dans une vocation concrète. Donc certains ça va être pour le mariage, certains ça va être la vie religieuse et d'autres ça va être le sacerdoce et donc de devenir prêtre diocésain. Et Mgr de Quirimel a eu cette idée géniale pour nous de vraiment parler de la spiritualité du prêtre diocésain. C'est que la spiritualité du prêtre souvent se prend vis-à-vis de la vie religieuse. Et en fait, non, il y a une spiritualité, qui est propre aux prêtres diocésains et qui est, à mon sens, fondée avant tout sur la charité pastorale. Là où les religieux, même si on vit les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance, là où les religieux font ces vœux que nous ne faisons pas, nous faisons simplement la promesse d'obéissance à l'évêque, et de célébrer la liturgie des heures, mais il n'y a pas cette... c'est pas modalisé de la même manière. Voilà.
Alors, je fais suite à ce que dit Jean-Baptiste, j'y adhère complètement. C'est un appel à la sainteté qui est adressé à tous. Alors, si je dois continuer à dire qu'est-ce que ça veut dire devenir saint pour un prêtre diocésain, je dirais que pour nous, notre sainteté, elle se vit à travers le service d'un peuple en particulier, être au service des baptisés. Notre vocation, voilà, c'est dans l'Église d'être au service des baptisés. Ce qui est beau dans cette vocation de prêtre diocésain, je crois que ça rejoint ce que dit Jean-Baptiste, c'est qu'un prêtre en paroisse, il est disponible pour tous. Il est là pour tous, tous les habitants qui sont sur sa paroisse. Voilà. Qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient des pratiquants réguliers ou juste de passage pour demander un baptême, un mariage, une confession, un conseil. C'est un homme qui est là disponible aux besoins du peuple, selon ce que demande l'évêque. Voilà. Quelqu'un qui, on est encore habité par les paroles du pape François, qui est empreint de l'odeur des brebis. Voilà. On n'est pas prêtre diocésain de la même manière à Toulouse, à Lille et à Grenoble. Voilà. Et donc, on se laisse modeler par un diocèse, par un peuple.
Voilà. Alors, dans cet enseignement de Mgr de Quérimel, il insiste aussi sur quatre dimensions de spiritualité, filiale, ecclésiale, pastorale et eucharistique. Laquelle vous semble la plus exigeante, peut-être la plus joyeuse, frère abbé Irénée et abbé Jean-Baptiste?
Moi, j'entends souvent, je ne suis pas encore prêtre, j'ai déjà promis obéissance comme diacre, mais j'entends souvent que, et je crois que c'est vrai, que contrairement à ce qu'on pense, ce qui est le plus exigeant, ce n'est pas le célibat, ce n'est pas la prière, même si c'est encore plus exigeant, mais l'obéissance. Voilà, vivre comme fils.
C'est oui, c'est ça, vous confirmez tous les deux.
Voilà,
oui, oui, c'est cette obéissance et ce qui invite peut-être à une radicalité, c'est l'exigence, la grande, plus que le célibat, hein, vous venez de souligner. Vous confirmez pour vous-même,
oui,
Jean-Baptiste?
Oui, peut-être plus, parce qu'en fait c'est...
Plus pourquoi, cette obéissance?
Parce que le célibat, déjà, on se prépare à le vivre. Et l'obéissance, c'est pas forcément naturel.
Et puis, permettez-moi, mais ce célibat, vous le choisissez librement.
On le choisit librement.
C'est votre choix.
Et joyeusement, hein, d'ailleurs.
Aussi. Et joyeusement, librement, joyeusement. Voilà. Qu'en est-il de l'obéissance?
Mais l'obéissance, en fait, on apprend qu'on nous a inculqué dans nos esprits de Français après la Révolution qu'en fait, obéir, c'est ne pas être libre. Or, en fait, il y a une vraie liberté dans l'obéissance. L'obéissance, quand elle est vécue sainement et j'ose même dire saintement, elle nous rend libre. L'obéissance au Christ nous rend libre. C'est pas des le Christ et par là aussi l'Église et nos évêques nous libèrent de nos chaînes d'une certaine manière. Et c'est ça la vraie c'est ça la vraie liberté, c'est de suivre le Christ et de suivre son Église qui est son corps. Oui, et donc l'évêque. Qui est l'évêque et le pape aussi, qui parle à travers. Qui parle, le Christ qui parle à travers le pape et les évêques, oui.
Cette question d'obéissance, et vous l'avez souligné à l'instant, est liée aussi à cette verticalité, cet appel aussi à la sainteté. Sans obéissance, il n'y a pas de sainteté. Chers abbés, que répondez-vous?
La clé, c'est que c'est une obéissance par amour, en fait. Comme le Christ qui obéit à son Père par amour, qui donne sa vie, c'est la clé de toute sainteté, être se vivre comme fils de Dieu et de faire de consentir à son projet d'amour pour chacun d'entre nous de manière particulière dans notre vie. Et voilà, donc une obéissance qui nous fait du bien et qui nous permet de faire le bien autour de nous.
Donc, vous allez devenir, quand on parle aussi de la figure sacerdotale fidèle au Christ, vous allez devenir à l'autel, au moment où vous allez célébrer aussi à l'autel la première messe et vos premières messes, vous devenez un autre Christ. Vous êtes préparé à vous imaginer, chers abbés, ce moment, parce qu'à J-3, on imagine un peu peut-être un peu la pression, quelques tensions. C'est un événement important dans vos parcours à chacun.
Mais oui, c'est-à-dire que dans les sacrements, on agit en la personne du Christ. C'est qu'on n'est même pas d'autre Christ. Tous les baptisés sont d'autre Christ. Mais quand on vit et quand on célèbre les sacrements, on agit en la personne du Christ. On est le Christ. Ce qui fait que, de fait, quand nous allons dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang », ça nous engage nous aussi. Ça nous engage nous aussi, ça engage notre agir sacerdotal, notre vie pastorale, et notre vie tout entière même. Et de fait, oui, on s'y prépare en répétant des messes, en refaisant les gestes, parce qu'en fait, c'est très différent de servir l'autel. Et après de célébrer, ça n'a rien à voir. Parce qu'on n'y pense pas, on pense pas à tous les gestes, en fait.
Alors, on parlait, puis, dans cet enseignement donné par Mgr de Quérimel, vous allez devenir donc de futurs prêtres. Il faut accueillir cette vocation sur le terrain aussi, durer dans la fidélité. Hein. Vous avez parlé de l'obéissance, rester obéissant à son évêque, obéissant à ce qu'il vous demandera. Et puis un diocèse, quand parce que vous avez parlé aussi de diocèse, l'importance aussi de vivre une amitié fraternelle entre prêtres. C'est capital aujourd'hui dans les temps que nous vivons, aussi bien dans le monde moderne, mais à l'intérieur même de l'Église, hein, pour tenir bon, traverser aussi les moments peut-être un peu plus agités et compliqués. Cette amitié, vous pouvez en parler l'un et l'autre ?
Qu'est-ce que je pourrais dire ? Si ce n'est que, c'est vrai, Jean-Baptiste disait, nous serons prêtres, mais nous serons aussi avant tout des hommes. Se donner dans l'Église, ça ne veut pas dire renoncer à soi-même pour se mettre au service de l'Église, ça ne veut pas dire ne plus se considérer comme un homme qui a besoin d'affection, d'amitié, d'un équilibre de vie, et à trop se donner ou à mal se donner, on peut aboutir dans des impasses. Et donc comme prêtre, comme diacre, c'est important que nous soyons vigilants là-dessus. Donc oui, nous avons besoin d'amis.
Le séminaire vous permet aussi de vous préparer, j'imagine, durant ces 7 ans de préparation à toutes les situations, Jean-Baptiste.
Peut-être pas à toutes les situations, mais de fait, le séminaire permet de nous enseigner. Le prêtre est un homme de relations. Et en fait, on tient dans les relations qu'on a déjà avant tout avec le Christ, et puis aussi celles qu'on a dans le presbytérium. Et entre autres, et aussi dans ces relations dans le presbytérium, c'est-à-dire la communauté des prêtres d'un diocèse, les relations qu'on a avec d'autres prêtres, des prêtres amis. Donc il faut cultiver à la fois cette fraternité dans le presbytérium, qui est précisément surnaturelle, on ne se choisit pas. Et après, les amitiés sacerdotales avec des personnes avec lesquelles on peut être vrai, on peut être sans filtre, on peut se confier. Le séminaire est à ce stade de bon qu'en fait ça permet d'avoir de créer ces relations. Ça permet de créer ces amitiés qui nous aident à tenir. Des amitiés, des amitiés d'ailleurs, s'il y a qui m'écoute.
D'ailleurs, vous avez parlé d'amitié vraie et d'amitié sans filtre.
Oui, en fait, il faut pouvoir être se livrer d'une certaine manière. Se livrer et confier à la fois ses joies et ses peines. Ses joies et ses peines à nos amis qui
vous
ne
l'avez
jugent
fait
pas.
Durant ces temps de séminaire, ces temps de préparation. Vous avez certainement l'un et l'autre, chers abbés, connu des hauts et des bas, peut-être des moments de doute ou d'incertitude. Et vous avez fait cet acte de vous confier.
Oui. Oui, moi je sais que j'ai...
Je n'ai pas posé la question, mais est-ce qu'en ces temps de préparation, vous avez douté? Le jour, on est à J-3, est-ce que vous avez l'un et l'autre douté d'aller jusqu'au bout ?
Toutes mes premières années.
Et pour vous,
je dirais que j'ai jamais douté que Dieu m'appelait, mais j'ai douté de ma capacité à y répondre à cet appel.
Alors au fond, vous parlez de capacité, donc répondre à cet appel et cette vocation particulière, quelles sont au fond les clés pour être et devenir pour un diocèse un bon pasteur pour les brebis? Quels sont les mots clés pour vous l'un et l'autre?
D'abord, je pense que ça commence par aimer le Christ, aimer l'Église. Je pense que c'est avant tout ça. Aimer le Christ dans son Eucharistie, aimer la relation avec le Christ, aimer l'Église à travers le Saint-Père, à travers son évêque, à travers le presbytérium, donc la communauté des prêtres du diocèse.
Et pour vous, abbé Irénée ?
Je pense que ce qui sera déterminant, et peut-être pour nous qui serons bientôt jeunes prêtres, c'est de rester des hommes de prière avant tout. Des hommes unis au Christ, et pas des project managers qui s'agitent et qui s'épuisent.
Oh, c'est bien en fait. Ça. Ouais.
Et c'est ce qui peut se passer parfois. Nos prêtres, curés en paroisse, gèrent presque une entreprise et deviennent des managers, n'ont plus le temps aussi de célébrer, n'ont plus le temps aussi peut-être de trouver ces moments aussi de prière. C'est important là ce que vous soulignez tous les deux. La prière est capitale pour que le cœur du prêtre soit en bonne santé.
Oui. C'est sûr.
Sans prière, le cœur du prêtre
s'effondre. Il se rabougrit, il est plus vivifié. C'est comme une voiture à laquelle on ne met plus d'essence. Au bout d'un moment, on vous allez tenir un petit moment, mais au bout d'un moment, on va falloir pousser, quoi.
Vous avez des temps de repos, des journées de désert. Quel est un peu le programme qu'on vous a préparé durant ces 7 ans et à quoi vous êtes prêt quotidiennement? Est-ce que vous avez un temps de repos qui est fixé?
On a ce qu'on appelle les lundis, oui, le dimanche des prêtres, c'est le lundi. Et puis après, on a quand même quelques semaines de vacances. Je crois que c'est 6 semaines de vacances dans l'année et une semaine de retraite. Une semaine de retraite qui nous permet de parler encore une fois, de nous enraciner, de revenir aux sources.
Quelles sont vos joies, là, quelques jours de l'événement qui va bouleverser un peu votre quotidien? Et puis, c'est l'aboutissement aussi d'une maturation et d'une vocation. Quelles sont vos joies, là, à quelques jours?
De pouvoir vivre ça avec le diocèse, avec les gens que je connais, que nous connaissons depuis des années, avec qui nous avons œuvré, voilà, pour les jeunes, dans les paroisses, et de vivre ça ensemble, je trouve ça très beau. Voilà.
Des moments aussi qui vous ont marqué dans tous ces temps aussi où vous avez participé aussi à des événements importants, des missions importantes sur le plan pastoral, abbé Jean-Baptiste.
Moi, je dois avouer que ce qui m'a marqué dans mon année à la cathédrale, enfin mes 2 années à la cathédrale, et particulièrement cette année, c'est l'afflux des catéchumènes. On a cette chance-là à la cathédrale, on est aux alentours de 180 catéchumènes, ce qui est quand même assez incroyable. Mais en fait, on a doublé chaque année, et je pense que ça, toutes les paroisses le voient. Ça, c'est ma grande joie de voir qu'il y a que les gens ont soif, en fait, et que tout ce travail, toute la prière qu'on met en œuvre, a une finalité, et qu'on ne fait pas ça pour rien. Et que le corps du Christ grandit et ne cesse de grandir, et que l'Église n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. À chaque baptême, l'Église grandit.
Moi, je suis ailleurs, je suis au Christ Roi, et depuis septembre, et c'est particulièrement dans la pastorale des jeunes, plus particulièrement dans la pastorale des jeunes, que je suis appelé à servir, et c'est une grande joie pour moi aussi. Je suis dans l'établissement scolaire Saint-Joseph, notamment, oui, les jeunes ont soif aujourd'hui, et donc, ça demande d'être à la hauteur de leurs désirs, de leurs attentes.
Et vous êtes dans un diocèse, ce diocèse de Toulouse. Effectivement, il y a eu un grand éclairage ces dernières semaines sur ce que vous venez aussi d'évoquer. De nombreux catéchumènes adultes qui ont reçu le baptême, près de 10 000. Si on répartit sur toute la France, 7 000 adolescents et un grand boom avec la pastorale étudiante ici, dans cette ville rose, ce diocèse de Toulouse, où vous allez œuvrer, au fond, pour la mission. Vous l'attendez, là, ce temps où vous allez être nommé dans une paroisse que vous ne connaissez pas aujourd'hui? Vous partez un peu dans l'inconnu? Ou alors on ne donne pas toutes les informations? On reste silencieux? Ça reste
secret?
Non,
l'évêque nous dit quand même un peu avant où est-ce qu'on va. Ouais.
Donc, pour éviter la pression.
On est un peu au courant.
Mais donc, on ne peut pas vous demander plus. Hein, ça reste secret. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Là, j'imagine que les auditeurs vous ont découvert, vont peut-être se rendre ce dimanche à 15h30, ce dimanche 29 juin, à la cathédrale, peut-être pour vous accompagner par la prière. Oui.
Moi, j'aimerais vous demander de prier pour nous, pour qu'on soit de saints prêtres, pour qu'on puisse tenir bon dans le Christ et qu'on soit toujours animé et soucieux de la sainteté des gens, parce que sur 100 âmes, 100 nous intéressent.
J'ai envie de rajouter, soyez exigeants avec nous, et nous on donnera le meilleur pour vous. Voilà, soyez vrais avec nous. Voilà, que nous serons peut-être vos pasteurs demain. Mais aussi des frères dans le Christ. Voilà. Alors, on compte sur vous pour nous aider à tenir bon avec vous et pour vous. Voilà.
N'ayez pas peur de nous déranger.
Voilà, on note. Je pense que le message a été entendu par les auditeurs qui vous découvrent aujourd'hui. Les auditeurs, tout comme moi, nous vous souhaitons une belle étape, un moment aussi où Radio Présence sera aussi à vos côtés pour vous accompagner. Donc ce dimanche 29 juin. Merci Abbé Irénée Romanoff et nous vous souhaitons donc une belle mission. Voilà. Dans le pastoral au cœur du diocèse de Toulouse ainsi que vous Jean-Baptiste Oneda, bonne mission à tous les deux et merci de dire oui ce dimanche.
Merci Nathalie.
Merci Nathalie.
Au revoir.
Au revoir.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.